Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal de Grâce à Mzati Masanzi.
Crise humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 100 réfugiés congolais sont décédés dans les camps au Burundi par manque d'assistance. L'Organisation citoyenne pour la paix et la cohabitation communautaire tire la sonnette d'alarme et interpelle Kinshasa et la communauté internationale. Province du Lualaba, le ministre des Mines annonce une levée partielle et temporaire de la suspension des activités de traitement des minerais à suivre dans ce journal. Coupe d'Afrique des Nations, CAN Maroc 2025, ça passe ou ça casse ce soir en huitième de finale entre les Léopards de la RDC et les Fennec d'Algérie à 17h, heure de Kinshasa. Nous faisons une analyse de cette affiche avec notre invité Delphin Kikuni, ancien vice-président de la Ligue Nationale de Football. D'abord, cette information en plus bref. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué ce lundi 5 janvier une brève visite de travail à Luanda, en Angola, où il s'est entretenu avec son homologue angolais, João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Les échanges ont été essentiellement consacrés à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, que le chef de l'État congolais qualifie d'une guerre d'imposition. Mesdames et messieurs, bonjour. L'Organisation citoyenne pour la paix et la cohabitation communautaire, CPCC, en sigle, alerte l'opinion nationale et internationale sur les conditions de vie précaires dans les camps des réfugiés congolais au Burundi. Au moins 100 personnes sont décédées dans différents camps à la suite du manque d'une assistance soutenue en abri, en soins de santé et en alimentation. Le président du comité exécutif de l'organisation qui lance l'alerte demande au gouvernement de la RDC et ses partenaires humanitaires d'agir urgemment. Ahadi Biamassou lance ses cris d'alarme au micro de Jean Kassami.
La situation est très choquante. Nous avons enregistré plus de 105 personnes décédées dans différents cas de réfugiés au Burundi, causés par l'insuffisance d'hébergement approprié, manque de soins de santé, absence d'une assistance humanitaire structurée, et d'autres sont attaqués par des personnes porteurs de flèches et d'armes blanches. C'est pour cette raison que nous sommes très indignés et nous demandons au gouvernement congolais ainsi qu'aux partenaires internationaux de pouvoir apporter une assistance digne et assurée auprès de nos populations à danger qui ont fui l'agression du M23, les épargner de toute autre menace dans différents cas de réfugiés au Burundi. Espérons que, avec notre alerte, le gouvernement va s'impliquer dans l'immédiat.
Nos efforts pour avoir le Haut Commissariat des Nations Unies ACR au Burundi ainsi que le gouvernement provincial du Sud Kivu n'ont pas abouti. Nous enchaînons avec le chapitre éducation. Les cours reprennent ces mardis sur toute l'étendue du territoire national après les fêtes du Nouvel An. Au Nord Kivu, cette reprise coïncide avec le retour dans leur zone pour une dizaine d'écoles des axes Bouabo et Shoa dans le territoire des Masisi. Déplacés au début de l'année scolaire par les combats, ces établissements s'apprêtent à entamer le deuxième trimestre ces mardis sur leur site d'origine. Cela grâce à une accalmie dans la zone. Mais les bâtiments sont sortis meurtris de la guerre. Luc Nyamulinduka, chef de la sous-division de l'EPST Masisi 1, lance un cri d'alarme pour obtenir un appui d'urgence. On l'écoute au micro de Rosalie Zawadi.
Pendant ce premier trimestre, les membres du comité sous-provincial de l'édit NC Masisi 1 avaient décidé que les écoles de l'axe Bouabo, Shoa puissent étudier à Masisi, étant donné que la situation sécuritaire dans ces zones n'était pas bonne. Comme il y aura rentrée le mardi 6 janvier 2026, j'ai pris au chef d'établissement d'ouvrir les écoles dans leurs milieux respectifs, étant donné que la situation sécuritaire est déjà établie dans ces zones. Par ailleurs, ces écoles étaient occupées par les belligérants. Il y a ces écoles-là qui avaient été détruites. Il y a ces écoles-là qui avaient été pillées. D'autres, c'était des cibles d'attaque. En tout cas, je prierai aux partenaires de venir ces écoles en aide pour que les enfants qui étudient dans ces écoles puissent étudier aussi comme les autres enfants congolais.
Signalons également le retour des nombreuses familles déplacées qui quittent Masisi Centre pour retrouver leur village d'origine sur l'axe Bouabo-Shoa. Pour ses parents, l'espoir est de voir leurs enfants retrouver enfin le chemin des salles de classe chez eux, loin de la précarité du déplacement. Et dans la province du Maniema, le président du collectif provincial des syndicats des enseignants appelle les enseignants des deux provinces éducationnelles, Maniema 1 et 2, qui menaçaient de boycotter cette reprise des cours ces mardis et de déclencher un mouvement de grève à reprendre les chemins de l'école. Ongala Chembe Silimani fait savoir que après une mission à Kinshasa, ensemble avec le ministre provincial de l'éducation, leur plaidoyer de délocaliser la paix des enseignants de la Caritas vers une autre banque a été pris en compte. On l'écoute dans cet extrait choisi par Florence Kizalunga.
Nous avions formé une délégation avec son excellence monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation au Maniema pour aller plaider les cas des enseignants de sept territoires de Maniema, dont les enseignants concernés par la problématique payée de la Caritas via IFOD. La bonne nouvelle est que nous sommes allés plaider, en la première position c'était pour demander la délocalisation, de quitter la Caritas vers une autre banque, et les autorités nous ont compris. Je crois que d'ici jeudi il y aura une solution concernant ça. Et le retard de paiement là, de un mois là qui est resté, on va régulariser cette situation le mercredi de cette semaine. Je crois que c'est ça la bonne nouvelle et que je profite à cette occasion d'interpeller la conscience de tous les enseignants de ce territoire concerné par la paix Caritas de reprendre le chemin des écoles de mardi 6 janvier 2026. C'est une décision de plusieurs assemblées générales que nous sommes allés à Kinshasa avec le ministre provincial pour plaider leur cas. Nous sommes bien rassurés à partir de Kinshasa parce que ça c'est une équipe d'avance qui arrive et après 48 heures, une autre équipe va nous rejoindre ici à Kindu avec les documents à mettre.
Le ministre des Mines annonce une levée partielle et temporaire de la mesure de suspension des activités pour les entités de traitement localisées dans la province du Lualaba. Dans un communiqué de presse publié ce lundi, la cellule de communication du ministère des Mines souligne que les entités de traitement sont autorisées à recevoir tous les minerais qui traînent sur les sites artisanaux légaux ou tolérés. Cette mesure intervient à la fin de la mission de contrôle de conformité menée par la commission du ministère des Mines dans le Lualaba. Paul Mounanga.
Le communiqué de presse de la cellule de communication du ministère des Mines précise que les entités de traitement sont autorisées à recevoir tous les minerais qui traînent sur les sites artisanaux légaux ou tolérés sous l'encadrement des services provinciaux des mines. Et chaque entité de traitement sera notifiée au cas par cas. Cette notification va détailler les mesures d'accompagnement requises pour la réparation des griefs administratifs, techniques et de traçabilité reprochées. Dans les communiqués de presse, il est fait mention également du montant des différentes pénalités que doivent s'acquitter certaines entités de traitement des minerais conformément aux dispositions de la loi minière en vigueur. Cette levée partielle de la mesure de suspension ne concerne pas l'entité L'Huile ou Ressources qui n'a produit aucun document probant, peut-on lire dans le communiqué de presse. Au moment où les ministres des Mines lèvent la mesure, des échauffourées opposant creuseurs artisanaux et forces de l'ordre ont été signalées ce lundi dans certains quartiers de la ville de Kolwezi. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
La Direction générale des impôts, DGI, informe le public ainsi que les propriétaires des véhicules et les usagers de la route du lancement officiel de la nouvelle plaque minéralogique sécurisée. Cette mise en circulation débute ce mardi 6 janvier 2026. L'annonce a été faite dans un communiqué publié sur X. Une question demeure toutefois, pourquoi la DGI introduit-elle cette nouvelle plaque alors que certains requérants n'ont toujours pas reçu celle qu'ils avaient commandée? Élément de réponse dans ces communiqués de la DGI, lu pour vous par Élise Cavira.
La DGI précise que le lancement de cette nouvelle plaque conçue conformément aux standards internationaux en remplacement à l'ancienne résulte de la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo d'améliorer la sécurité des automobilistes, d'harmoniser le système national d'immatriculation des véhicules et de faciliter le contrôle routier par le service de la police. En effet, pour une bonne harmonisation du système national d'immatriculation automobile, la DGI invite tous les propriétaires des véhicules automobiles à se procurer la nouvelle plaque minéralogique sécurisée pour se conformer à la nouvelle réglementation.
Cette question des plaques d'immatriculation avait déjà été évoquée par le président de la République lors de sa communication à la 72e réunion du Conseil des ministres tenue le 26 décembre 2025. Le chef de l'État s'était dit préoccupé par la rareté persistante, voire la rupture des stocks des plaques d'immatriculation à travers le pays. Selon lui, cette situation engendrait des conséquences néfastes, notamment sur le plan sécuritaire, en compliquant la prise en charge des usagers de la route. On écoute un extrait du compte rendu lu par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, extrait proposé par Alain Rongmouchinge.
Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la délivrance des plaques d'immatriculation pour véhicules. Il a relevé avec une vive préoccupation que des informations concordantes portées à sa connaissance font état depuis une longue période d'une rupture, voire d'une rareté persistante des plaques d'immatriculation sur l'ensemble du territoire national. Cette situation a conduit des nombreuses personnes propriétaires de véhicules récemment importés à circuler sans plaque réglementaire ou à munir abusivement des plaques dites temporaires émanant de certains services publics, principalement dans les buts d'échapper au contrôle des polices des circulations routières. Cet état de fait révèle une défaillance manifeste du service légalement habilité à assurer la délivrance des plaques d'immatriculation. Il engendre de conséquences graves et inacceptables, notamment l'atteinte à l'autorité de l'État et au respect de l'ordre public, la multiplication des fraudes et des usagers irréguliers des plaques non conformes, la difficulté d'identification des véhicules impliqués dans des infractions, des accidents ou des actes criminels, des pertes significatives des recettes pour le trésor public, une insécurité accrue sur les routes et une dégradation de la gouvernance administrative dans les secteurs de transport.
Cette décision d'imposer une nouvelle plaque d'immatriculation aux automobilistes intervient, selon certains observateurs, non seulement au pire moment, mais également dans une logique jugée déconnectée de la réalité sociale du pays. Pour les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise, il ne s'agit pas d'un simple débat technique ou administratif. Dans une tribune publiée ce week-end sur les réseaux sociaux, Jonas Tiombela estime que l'accumulation des taxes et redevances imposées aux Congolais, souvent perçues dans un climat de tracasserie routière, donne l'impression d'un État plus prompt à prélever qu'à protéger, plus efficace pour taxer que pour améliorer les routes, sécuriser les usagers ou mettre fin aux abus. On écoute Jonas Tiombela au micro d'Alain Irung.
L'État semble avoir choisi le pire moment pour imposer une nouvelle plaque d'immatriculation, alors que les Congolais peinent à survivre sans revenus stables. Les automobilistes sont soumis presque ou même au même moment à une avalanche de taxes, vignettes, contrôles techniques, permis de conduire, assurance, carte rose et maintenant sur le changement de plaque. Ce cumul de charges devient une véritable asphyxie financière pour la population déjà appauvrie. Le problème n'est pas la modernisation, mais l'absence de sens social et de dialogue. La fiscalité ne doit pas écraser les citoyens, mais les accompagner. Il est urgent que les autorités réévaluent ces mesures, instaurent un moratoire et placent enfin l'humain au centre de l'action publique.
Notez que l'association des chauffeurs du Congo ASECO s'est dit également inquiète du lancement de la nouvelle plaque d'immatriculation, alors que plusieurs récurrents n'ont pas encore reçu les anciennes plaques qu'ils avaient commandées. Ici, à Kinshasa, les habitants du quartier ferme Orgaman, au niveau des petits paniers, dans la commune de Mongafula, alertent sur la montée de l'insécurité dans cette partie de la capitale. Ils affirment que des bandits munis notamment des machettes et d'armes à feu sèment terreur et désolation. Ces habitants plaident pour l'installation des nouveaux sous-commissariats de la police, dotés d'agents plus actifs et capables d'intervenir rapidement. Suivez leur déclaration lue par Ursule Kimeme au micro de Richard Junior Kamunga.
Depuis le mois de novembre de l'année passée 2025 jusqu'à ce jour, au début de cette nouvelle année 2026, la population de ces quartiers ne dort pas. Chaque jour, les bandits criminels munis des armes et machettes entrent dans des maisons. Ils cassent tout, ils pillent, ils tabassent, ils volent et ils violent même. Les cas sont nombreux depuis novembre. Ils emportent argent et autres biens de valeur sous des menaces de mort. Dans ces quartiers très étendus, il n'y a qu'un seul petit sous-siat avec un nombre réduit de policiers très âgés, très fatigués et même très familiarisés avec les gens peu connus. Malgré les différents cris de détresse, ils n'interviennent jamais. Leur travail, c'est de bien protéger des motos et des véhicules stationnés au sous-siat. La population du quartier ferme Orgaman exige, avant que le pire arrive, le changement changement de ces policiers incapables d'intervenir en cas de sécurité, mais des bons gestionnaires des motos. 2. L'installation de 2 ou 3 sous-siats dans ces quartiers très étendus avec des policiers bien armés et très actifs pour sécuriser la population.
Actualité internationale.
En Centrafrique, la ville de Zemio, dans les Hauts-Mbomou, cible d'une nouvelle attaque alors que les résultats des élections présidentielles et législatives du 28 décembre étaient attendus la fin de la journée de ce lundi 5 janvier. La situation reste tendue dans le sud-est du pays en proie à des violents combats entre l'armée et la milice Azande Anikpigbe AAKG depuis la semaine dernière. Le président déchu du Venezuela, Nicolas Maduro, plaide non coupable à New York et retourne en prison jusqu'à la prochaine audience le 17 mars. Il a été présenté devant un juge ce lundi 5 janvier. Il a plaidé non coupable des accusations qui lui ont été annoncées formellement. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a plaidé dimanche pour une relation équilibrée et respectueuse avec les États-Unis lors de son premier conseil des ministres, invitant Washington à travailler conjointement à un agenda de coopération.
L'invité.
Les léopards de la République démocratique du Congo affrontent les Fenech d'Algérie ce mardi 6 janvier dans le cadre du 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Maroc 2025. La rencontre est prévue au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat à 17h heure de Kinshasa. Quels sont les principaux enjeux de ces chocs très attendus entre la RDC et l'Algérie? Delphin Kikou Niano, ancien vice-président de la Ligue nationale de football Linafoot et analyste sportif, répond dans cet entretien avec Kanish Mukongo Fouanikizi.
Delphin Kikou Niano, bonjour.
Bonjour cher Kanish, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capri, spécialement à tous les sportifs congolais.
Vous êtes ancien vice-président de la Linafoot et analyste sportif. Comme vous le savez, la RDC joue l'Algérie ce mardi. Au vu des précédentes confrontations entre les deux nations, peut-on parler d'un choc équilibré ou voyez-vous un favori clair?
Oui, il faut lire les confrontations entre la République démocratique du Congo et l'Algérie. Il faut noter qu'historiquement, la RDC n'a jamais gagné l'Algérie en match officiel. Ce qui donne à l'Algérie un avantage sur papier en termes de pronostics. On peut aussi ajouter à cet élément-là les cartons pleins qu'ils viennent de réaliser en phase de groupe, même si les léopards n'ont pas perdu de match aussi en cette phase de groupe. Mais ils sont deuxièmes, et deuxièmes qui vont jouer contre le premier de leur groupe. Il s'agit donc d'un adversaire qu'il faut fondamentalement prendre au sérieux.
Dites-nous, au regard du parcours des léopards lors des phases de groupe, les systèmes de jeu utilisés face au Bénin, au Sénégal et Botswana doit-il être maintenu ou adapté face à l'Algérie?
Depuis un temps, s'il faut lire tous les matchs que les léopards ont joués, il faut dire qu'ils ont développé des jeux atypiques. Des jeux qui ne sont pas nécessairement taillés sur mesure, mais des jeux qu'ils réalisent, bien sûr, en tenant compte de l'adversaire, mais également en poussant l'adversaire à s'adapter au rythme des léopards. C'est ce qui fait que bon, il laisse des fois l'adversaire croire à une certaine domination, mais qui est passagère, et à chaque fois profiter des erreurs pour créer la différence. Il y a une transition qui se joue au point de contrôler tous les détails, d'éviter des relances qui sont souvent test de gâchis. Il préfère porter les ballons, assurer les passes, faire des anticipations et éviter à courir derrière l'adversaire. C'est la force de cette équipe, à mon avis, jusqu'aujourd'hui.
Defin Kikuni, dites-nous un peu, face à une équipe algérienne expérimentée, comment la RDC peut-elle se comporter mentalement et gérer la pression dans un match à élimination directe comme celui-ci?
Face à l'Algérie, avec toute son expérience, je conseille à une concentration et surtout à la démystification. Il faut considérer la rapidité de ses joueurs, ne pas les laisser prendre des initiatives parce qu'ils sont forts dans des relances, des appels à distance, et qui casse tous les rythmes et qui casse même l'organisation. L'on doit garder son mental très haut, éviter des fautes. On connaît les astuces, les provocations des équipes de l'Afrique du Nord. Il ne faut pas les suivre dans ces provocations-là. Il faut être concentré, rester dans le match, garder un mental très haut, éviter qu'il y ait trop de coups de sifflet et surtout dans la surface. Et là, ça pourrait être un danger permanent. Donc, on doit tenir compte du fait que souvent, ils abîment toute organisation, ils cassent tous les rythmes et on doit pour cela rester très concentré.
Quels sont selon vous les joueurs clés sur lesquels la RDC doit compter ou ceux qui pourraient être déterminants lors de ce match?
Diabé Lurette, notre équipe nationale dispose aujourd'hui d'un groupe homogène, un groupe costaud et dont le banc rassure. En ce sens, je m'abstiens de miser sur un joueur ou un groupe de joueurs. Même si il faut reconnaître quand même qu'il y a certaines individualités sur lesquelles le collectif peut s'appuyer. C'est le cas du capitaine Chancel Mbemba, c'est le cas de Bakambu, ils ont leur expérience. Mais il faut savoir que les adversaires ont toujours visionné le match et ils savent déjà sur qui nous comptons. Et donc à ce moment-là, il faudra qu'il y ait des surprises, des joueurs qui ne sont pas attendus. On l'a vu lors du match contre le Botswana et ça fait une fierté. Donc moi, à mon niveau, je ne voudrais pas nécessairement compter sur un joueur. J'ai confiance au groupe, un groupe qui est homogène, et un banc qui est très très abondant et je crois que ça pourra faire l'affaire. Il faut pousser que chacun puisse se déterminer dans le rôle qu'il joue, considérer qu'il doit jouer pour tout le monde. Et le jeu collectif l'a toujours emporté sur les individualités. Il faut comprendre qu'on est dans une phase éliminatoire directe. Il suffit d'un faux pas et on est resté.
Avant de terminer, quel message adressez-vous aux supporters congolais avant ce match décisif?
Les supporters congolais, je crois qu'avec la légende de notre Lumumba, cette légende-là qui fait parler de la RDC, il faut compter sur ça. Il faut s'appuyer sur ça. Et également, on doit s'appuyer sur... La nature qui fait que les Marocains vont être derrière les Congolais. Et je suis sûr qu'on va amener le stade de martyrs à Rabat. Les supporters doivent continuer à pousser, chanter, obliger nos joueurs à faire mieux. On a besoin de résultats. Et ces résultats là-bas, c'est les concours de tout le monde. Le souhait, c'est d'aller plus loin, de dépasser les caps des demi-finales. Et le 12e homme que les supporters congolais a un rôle capital à jouer à ce niveau-là. Tous les Congolais, où qu'ils soient, doivent soutenir l'équipe nationale. C'est la fierté de notre pays, c'est la fierté de la République. Et c'est de cette façon-là qu'on va faire parler de nous. C'est de cette façon-là qu'on va faire respecter notre équipe nationale.
Delphine Kikuni, je vous dis merci.
Notre invité était interrogé par Kanish Mukongo Fouanikizi. Ainsi prend fin ce journal, mis en œuvre par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa et coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision éditoriale d'Alain Rung Mushinge. Merci de l'avoir écouté et bonne suite des programmes avec Jean-Marc Matoaki, mon Felele Dijano.